Bien bonjour, très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Mission Planète Terre et sur IDFM Radio. Nous sommes quelque part sur la planète et nous sommes reçus aujourd'hui par Jean Jouzel. Jean Jouzel qui est un paléoclimatologue de renom et qui a été aussi vice-président du groupe scientifique du GIEC. Bonjour Jean Jouzel.
Bonjour Olivier Prête.
Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Ma première question, Jean Jouzel, c'est celle-ci. Vous avez donc participé aux travaux du groupe d'experts du GIEC et vous avez été donc vice-président. Par rapport aux prévisions du GIEC, où on en est aujourd'hui en matière de dérèglement climatique, de changement climatique, est-ce que c'est les prévisions normales qui avaient été imaginées par le GIEC ou on est déjà bien au-delà?
Non, par rapport aux prévisions du GIEC, nous sommes pratiquement sur les trajectoires qui étaient envisagées depuis une cinquantaine d'années. En fait, j'ai suivi de l'intérieur cette montée en puissance du problème du réchauffement climatique lié à nos activités. Et quand on regarde les premiers rapports du GIEC, eh bien, il s'appuyait sur le rapport Charnay 79 qui prévoyait des réchauffements de l'ordre de 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle pour un doublement des quantités de gaz carbonique. Et c'est toujours ce vers quoi nous allons. En termes de température, le rythme moyen de l'augmentation de température entre 2 dixièmes et 3 dixièmes de degrés par décennie, c'est ce qui était envisagé il y a une cinquantaine d'années. En termes de modification des événements extrêmes. Depuis le troisième rapport du GIEC, nous répétons que le réchauffement climatique sera accompagné d'une intensification des événements extrêmes qui deviendra soit plus intense, plus fréquent, et c'est le cas pour les vagues de chaleur, on le vit bien, c'est le cas pour les sécheresses qui deviennent de plus en plus fréquentes dans certaines régions, des pluies torrentielles également, disons la quantité de précipitations qui tombe sur la même période devient plus importante. C'est vrai aussi pour les cyclones, en tout cas leur intensification dans certaines régions. Donc c'est bien ce que nous avions entrevu. C'est vrai aussi pour l'élévation du niveau de la mer. L'élévation du niveau de la mer est deux fois plus importante, de l'ordre de 5 mm chaque année, qu'elle n'était il y a une trentaine d'années dans les années 90. Et cela, ce n'est pas une surprise, c'est ce qui était prévu. Alors dans ce panorama assez global, il y a effectivement des phénomènes qui se produisent peut-être un peu plus rapidement que nous ne l'avions prévu, d'autres peut-être un peu moins rapidement. Par exemple, une surprise, eh bien, c'est que les trois dernières années, 2023, 2024, 2025, sont trois années très chaudes. Toutes les trois sont pratiquement autour, alors en moyenne planétaire, autour de 1,5 degré par rapport à notre référence. Notre référence, c'est la période 1850-1900, la deuxième partie du 19e siècle. Et nous sommes déjà au niveau le plus ambitieux de l'accord de Paris. Mais ces trois années, il y a vraiment un saut par rapport à ce qu'il y avait, disons, sur la décennie précédente, quelques dixièmes de degrés, qui est un peu surprenant. Alors, c'est lié en partie au phénomène El Niño, qui a marqué les températures de l'océan Pacifique, en particulier en 2024. On ne peut pas encore dire que c'est quelque chose qui, va au-delà de ce que nous avions prévu. Ce que nous avions prévu, c'est évidemment que chaque décennie serait plus chaude que la précédente, de l'ordre de 3 dixièmes de degré. Nous en sommes là. Pour vraiment dire si le climat s'est emballé, parce que c'est la question qu'on peut se poser à juste titre, il faut encore attendre quelques années. Il se peut très bien que ce record de 2024 ne soit battu qu'en 2030. Il ne faudrait pas être surpris. C'est ce qui s'est passé après le phénomène El Niño 1998, pratiquement la première décennie, les années 2000, le réchauffement a été très limité dans l'atmosphère. Il s'est poursuivi dans l'océan, mais il a été très limité dans l'atmosphère suite à ce phénomène El Niño très important. Donc, globalement, par rapport à cette question, nous sommes dans les clous par rapport à ce que notre communauté envisage depuis une cinquantaine d'années, avec quelques événements qui sont un peu plus surprenants que ce que nous avions envisagé. Par exemple, aussi des records de chaleur, les 50 degrés qu'ont connus le Canada il y a maintenant 3 ou 4 ans ont été une vraie surprise.
Est-ce que les périodes de glaciaires, comme avec des températures très très froides aux États-Unis en ce moment, est-ce que c'est normal, ou il y a quelques semaines, est-ce que c'est normal ça, est-ce que ça fait partie du changement climatique? Parce que vous voyez, par exemple, Donald Trump se réjouit en disant, vous voyez qu'il n'y a pas de réchauffement climatique puisqu'on est dans une période de grand froid.
Alors il faut être très prudent, mais on peut faire d'une certaine façon, certains de mes collègues, et peut-être à juste titre, mais ça reste à démontrer, font une relation entre le réchauffement climatique et ces vagues de froid qui, effectivement, sont extrêmement dévastatrices, ou l'ont été au cours des derniers jours aux États-Unis, sur l'ensemble des États-Unis. En fait, la région polaire, l'air des régions polaires, est limité par ce qu'on appelle un vortex, et ce vortex... En conditions normales, c'est vraiment très circulaire. Mais quand la différence de température entre nos régions les régions du Grand Nord, les régions de l'Arctique, diminue, eh bien cette limite entre du vortex polaire devient sinueuse. Et on comprend que dans les sinuosités, eh bien... On peut avoir des régions où effectivement l'air polaire pénètre très au sud, et c'est le cas aux États-Unis actuellement. Et on constate, dans la mesure où le réchauffement climatique est trois fois plus important en Arctique qu'il l'est en moyenne planétaire, la différence de température entre nos régions et les régions du Grand Nord diminue. Et effectivement, une des suggestions serait que ça reste à vérifier que, eh bien, le réchauffement climatique s'accompagnerait d'un affaiblissement, en tout cas, du vortex polaire et de l'entrée, ça faciliterait l'entrée d'air polaire très au sud, comme c'est le cas actuellement. Donc, ce n'est pas du tout incompatible par rapport à l'idée d'un réchauffement climatique. Et quand on regarde, je l'ai fait, les trois derniers mois, disons les trois mois d'hiver, eh bien décembre, novembre, décembre et janvier cette année, eh bien ces trois mois d'hiver en moyenne planétaire sont de nouveau des trois mois d'hiver très chauds. De façon très claire, les hivers se réchauffent de façon tout aussi rapide que la moyenne planétaire à peu près. Donc il n'y a pas, le fait que ces hivers soient entrecoupés de façon de plus en plus fréquente, c'est vrai, de périodes très froides, ne remet pas du tout en question le réchauffement climatique à l'échelle planétaire.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'y aura plus de neige dans les stations de sport d'hiver dans quelques années?
Alors, plus de neige, dans quelles stations? Dans les stations de basse altitude, oui, on le voit bien, l'enneigement, diminue. Il y a aussi ce phénomène que le réchauffement climatique peut être un peu plus important dans les régions montagneuses qu'il ne l'est dans les régions, disons, de plaines adjacentes. C'est le cas pour la Suisse, par exemple. Et ce réchauffement, eh bien, même s'il y a des précipitations, la pluie, est présente de plus en plus haut dans les montagnes, et on voit bien que la saison d'enneigement diminue de façon très claire, à la fois en début de saison, mais aussi en fin de saison. Et c'est vrai aussi que les glaciers, leur volume diminue de façon là aussi accélérée. Tout cela était prévu, et ça devrait se poursuivre, la diminution de la saison d'enneigement va se poursuivre. Pour les stations de basse altitude, ne sera pas le cas pour les stations de très haute altitude.
Est-ce qu'on peut penser aussi, imaginer qu'à la fin du siècle, il n'y aura plus de glaciers du tout?
Alors, plus de glaciers du tout, non, il y aura toujours des glaciers, mais le volume des glaciers aura diminué de façon importante. Dans les Alpes, il ne restera plus que les glaciers de très haute altitude, au-dessus de 3500 mètres. On peut répondre à la question, oui, les glaciers auront disparu dans les Pyrénées, par exemple. Ils sont pratiquement en voie de disparition. Ils n'auront pas disparu dans l'Himalaya, mais leur volume... diminue, tente à diminuer, avec des conséquences sur, évidemment, l'approvisionnement en eau sur toute une région, disons, de l'Asie du Sud-Est, qui représente plus d'un milliard d'habitants. Donc ce sont des conséquences très importantes pour le cycle hydrologique. En France, il y a des conséquences évidemment pour le tourisme, il y a des conséquences aussi pour la disponibilité en eau, disons aussi bien pour... disons, le potentiel hydroélectrique peut être affecté, mais aussi la possibilité, disons que c'est les neiges qui fondent plus tôt, ça change la saisonnalité de l'écoulement des rivières, sur de la Durance et tout cela, et donc ça peut poser des questions pour l'agriculture également dans les plaines qui sont tributaires de ce que leur fournissent effectivement les régions montagneuses.
Est-ce qu'on peut aussi imaginer un changement viticole, par exemple? On dit que les vins de Bordeaux pourraient se retrouver en Bretagne ou dans le nord de la France, ou voire même en Angleterre.
Cette hypothèse est prise de plus en plus sérieusement, et d'ailleurs on commence à en voir les prémices. Les chiffres doivent être là. Je crois que depuis une trentaine d'années, le degré d'alcool, par exemple dans le Languedoc, a augmenté de près de... un degré d'alcool par décennie, c'est pas rien. Donc on voit bien, il y a évidemment des possibilités de modifier les cépages, de modifier les pratiques, pour la période où on cueille le raisin, par exemple. Donc il y a des choses à faire pour s'adapter, mais il y a une limite à l'adaptation, et l'idée que les vignobles remonteront vers le nord est quelque chose pris très au sérieux. Dans ma Bretagne natale, il y a quelques vignerons qui commencent à, effectivement, les vignes sont plantées, les premières vendanges sont là, c'est pas encore du bon vin, mais dans une trentaine d'années, dans une quarantaine d'années, ce n'est pas du tout exclu.
Merci beaucoup Jean-Joseph. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une courte pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après. Merci. IDFM Radio, 98 FM. Eh bien bonjour, on se retrouve sur IDFM Radio dans notre émission Mission Planète Terre. Et nous sommes aujourd'hui avec le paléoclimatologue Jean Jouzel, qui a été vice-président du groupe scientifique du GIEC et qui a d'ailleurs partagé le prix Nobel de la paix avec ce groupe de scientifiques. Merci encore Jean Jouzel de nous recevoir aujourd'hui.
Merci Olivier Prête.
Alors, on a parlé tout à l'heure de l'évolution, donc du changement climatique. Vous savez qu'on est en pleine période là d'élections municipales qui se préparent, de préparation aux élections municipales. Qu'est-ce que Jean Jouzel, vous pourriez, on le sait, les collectivités territoriales, ce sont des acteurs essentiels pour l'adaptation au changement climatique. On voit dans nos villes des îlots de fraîcheur, et on souffre d'ailleurs davantage de canicules dans les villes plutôt que dans les campagnes ou au bord de la mer, parce qu'il y a un petit peu d'air quand même au bord de la mer, mais je sais que pour les Parisiens, par exemple, c'est quand même extrêmement difficile les hausses de température. Est-ce que déjà vous pouvez nous parler de ces canicules? Est-ce que malheureusement on en aura de plus en plus et avec des températures de plus en plus extrêmes ou pas? Et comment on peut s'adapter quand on est une ville? Quelles sont les bonnes pratiques que vous conseilleriez aux futurs maires et aux candidats pour mettre dans leur programme?
Donc d'abord situer ce dont on parle. Des canicules ont une intensité, un niveau que nous n'avions pas connu, par exemple dans ma jeunesse. Je suis né en Bretagne et on n'imaginait pas des températures de 40 degrés à Rennes, et ça s'est produit l'an dernier. Donc, une des caractéristiques, nous sommes dans un monde où le réchauffement en France est d'un peu plus de 2 degrés hein, depuis le début du 20e siècle. Mais une des caractéristiques des canicules, c'est que les records de température augmentent plus rapidement que la température moyenne. On comprend bien d'ailleurs, c'est une question de statistique, donc voilà, il y a des pics de temps en temps, et c'est assez remarquable, on a des températures qui dépassent les 40 degrés, en France c'est 46 degrés, le record de température, et ce sont des températures auxquelles il est relativement difficile de faire face, il faut être prudent, y compris pour la santé. Sur la santé ne joue pas simplement la température, c'est plutôt le couple température-humidité. On parle de température humide, et quand l'air est très humide, par exemple au-dessus 80%, et quand on a des températures au-dessus de 35 degrés, on ne peut plus évacuer la chaleur, et donc ça devient assez invivable, en ce sens qu'on ne peut pas avoir d'activité normale, physique, sportive, ou de travail dehors. Donc on voit bien, et si on n'y fait pas attention, ça peut aller. On se souvient des 15 000 morts en France liées à la canicule de 2003. Nous n'étions pas bien préparés. Ça peut aller effectivement jusqu'au décès des personnes. Et aussi, la nature qui nous entoure est très affectée. La biodiversité, les écosystèmes le sont également. Donc, il est essentiel. Et dans les villes, s'ajoute à ces records de température l'effet d'îlots de chaleur urbain, les villes trop minérales, effectivement, la chaleur est absorbée la nuit, la chaleur ne s'évacue pas, et donc il y a des températures, en particulier les températures nocturnes, qui peuvent être très chaudes, et effectivement contribuer à ces problèmes de santé. Donc les villes doivent être attentives, doivent prendre la mesure, s'adapter aux canicules qui vont devenir plus fréquentes, plus intenses, plus précoces, plus tardives. On a eu des canicules au mois de juin, des canicules en septembre. Ce n'était pas non plus courant. Et donc la meilleure façon, c'est évidemment de la végétalisation des villes. C'est pas toujours facile, mais c'est important. Nos villes sont trop minérales. Une place de goudron, eh bien, absorbe la chaleur. Et voilà, ce n'est pas du tout propice à la qualité de vie. C'est pas simplement végétaliser, on parle de brumisateur, par exemple dans Paris, on peut au moment des vagues de chaleur effectivement apporter un peu d'eau, mais aussi des sources, être capable quand on se promène, y compris à pied, de boire de l'eau fraîche, enfin de l'eau est aussi quelque chose de très important. Ce sont des mesures de bon sens. Alors on voit bien que ces villes ne peuvent pas s'adapter. Là aussi où c'est quelquefois difficile de l'adaptation, c'est à l'intérieur des bâtiments. Donc le confort d'été, il y a très peu de bâtiments qui ont été sont conçus avec cette idée que, eh bien, le confort d'été était quelque chose d'important. Nos bâtiments sont conçus d'ailleurs plus ou moins bien pour, disons, l'hiver, pour, il y a des chauffages, c'est souvent bien équipé, sauf que beaucoup de ces bâtiments ne sont pas suffisamment isolés, mais très peu sont, et en particulier les bâtiments haussmanniens, sont adaptés, disons, ont été pensés en fonction de risques de canicule. Et ça, c'est très important. Très important, d'autant plus que il y a un problème d'inégalité. Donc, clairement, les populations les plus modestes vivent très souvent dans des logements qui sont les moins bien adaptés, même s'il y a pour le moment, il y a en fait un grand effort de rénovation des bâtiments, d'un grand ensemble de bâtiments, disons, à loyer modéré, par exemple. Mais, globalement, ces populations sont moins à même de, disons, moins bien outillées pour faire face à ces problèmes de réchauffement climatique. Alors, j'aimerais plus globalement souligner le rôle très important des collectivités sur tous les volets liés au réchauffement climatique. Je le rappelle, ce réchauffement climatique, c'est lié à nos activités. Et nos activités, quand on les regarde, se loger, se nourrir, se déplacer, c'est à peu près les deux tiers de nos émissions. C'est notre vie de tous les jours. Donc le logement, par exemple, c'est de l'ordre de 20% ou un peu moins de nos émissions de gaz à effet de serre. Il est très important pour une ville, l'urbanisme, disons, la qualité des logements, l'isolation, et je l'ai déjà souligné, disons, l'adaptation en cas de, par rapport au confort d'été sont des choses essentielles dans le développement urbain, et c'est, sont mieux prises en compte qu'il y a une dizaine d'années, mais le problème le plus critique actuellement, c'est la rénovation de l'ancien, c'est pas si facile. Quand on regarde la mobilité, c'est en France 30% des émissions, et là aussi, les collectivités ont un rôle essentiel à jouer, à mettre à disposition des transports doux, du vélo, voilà, des transports en commun, tout ça c'est essentiel. C'est vrai aussi dans les circuits alimentaires, hein, disons les circuits courts. Donc on voit bien que les collectivités, dans la lutte contre le réchauffement climatique, ont un rôle essentiel. Elles l'ont aussi dans l'adaptation, c'est évident, on en a rapidement parlé. Et à l'évidence, l'adaptation pose des questions très différentes. Si vous êtes, nous sommes ici au cœur de Paris, dans une métropole, ou si vous êtes sur une station côtière où le risque premier, c'est l'élévation du niveau de la mer, ou encore dans une station des Alpes, où là, le tourisme est vraiment très largement conditionné à l'enneigement, à, disons, au climat de la région. Le réchauffement dans ces régions n'est pas très favorable au tourisme, en tout cas pas au tourisme hivernal. Donc on voit bien que l'adaptation est très régionalisée, peut être même très locale, quand on regarde des risques d'inondation, par exemple, dans les fleuves et les rivières, ce sont des risques très locaux. Mais voilà, donc l'adaptation, ce sont quand même les collectivités qui ont l'adaptation. Et puis, dans la lutte contre le réchauffement climatique, alors c'est plus les territoires que les villes, mais les territoires, c'est là où se développent les énergies renouvelables. On a besoin de surface. Et donc là, les collectivités peuvent jouer un grand rôle dans le développement des énergies renouvelables qui vont être essentielles dans la production d'électricité, parce que de façon manifeste, eh bien, notre société, si on le veut qu'elle soit à même, disons, outillée pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est vraiment aller vers une électrification de plus en plus importante. Donc c'est tout cela, il faut produire probablement plus d'électricité. Les territoires ont un rôle important dans cette production d'électricité. Je le redis, à la fois dans tout ce qui concerne l'urbanisme, la mobilité, les circuits alimentaires, l'adaptation au réchauffement climatique, le développement des énergies renouvelables. C'est largement tout cela, c'est largement les collectivités qui ont ou non le dynamisme de le mettre en œuvre.
Merci Jean-Joseph. Je voulais aussi parler des États-Unis, de cette géopolitique qui est complètement instable en ce moment. Est-ce que les décisions prises par Donald Trump, par exemple, de ne plus subventionner des organismes de recherche, des organismes internationaux, de supprimer la recherche en matière de changement climatique, sur le climat, est-ce que c'est dangereux et est-ce que ça peut avoir des conséquences?
Oui, c'est dangereux parce que nos collègues américains, là, le National Center for Atmospheric Research est en cours de démantèlement. Eh bien, ce sont des grands laboratoires dans le domaine de la recherche sur l'évolution du climat. voilà, bien sûr, j'ai beaucoup de collègues américains. Ce sont aussi des grands organismes comme la NASA dans la collecte de données. Nos données sont de plus en plus mises à disposition à partir de l'observation satellitaire. Et donc, il faut des séries continues. Et si elles sont interrompues, eh bien, on perd de la qualité. C'est ce qui risque de se passer. Alors, nous sommes clairement au creux de la vague en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Le problème du négationnisme de Donald Trump, bien sûr, ça joue au niveau des États-Unis. Les émissions vont diminuer moins vite qu'ils n'étaient envisagées. Ils ne vont pas atteindre les objectifs affichés par Joe Biden. Maintenant, ils n'en ont plus d'objectifs. Mais c'est aussi largement au-delà. Quand on regarde, par exemple, le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, de nouveau, il y a trois scénarios en termes d'évolution de la production énergétique qui sont mis en place par cette agence internationale sur l'énergie. Et dans les derniers rapports, depuis 4-5 ans, le scénario émetteur avait disparu, parce qu'il n'était pas, disons, l'agence internationale de l'énergie, qui est quand même l'agence des énergies fossiles, avait compris que bien, on allait irrémédiablement vers une diminution de la production des combustibles fossiles, du pétrole, du gaz, du charbon, que c'était inéluctable d'une certaine façon, on avait pris acte. Et là, eh bien, sous la pression de Donald Trump, le scénario émetteur est de nouveau présent dans le rapport 2025. Et vraiment, ça interroge et ça libère les appétits des autres pays en termes de production d'énergie fossile. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement, les États-Unis sont les premiers producteurs de fossiles, donc ça joue quand même de façon importante. Mais c'est aussi cette libération des appétits des autres pays, des pays de l'OPEP, qui interrogent. Et eh bien, si on reste sur là où on en est, eh bien, nous allons aller vers une augmentation des émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2040 et vers des réchauffements qui pourraient être très importants au cours des prochaines décennies.
Merci beaucoup, Jean Jouzel, de nous avoir reçus aujourd'hui au cœur de Paris pour parler climat, adaptation au changement climatique. Je remercie Francky qui réalise cette émission. Donc, je vous rappelle que c'est diffusé sur l'antenne d'IDFM les 2e et 4e mercredis de chaque mois de 10h à 10h30. Et puis, vous pouvez retrouver les podcasts sur le site de la radio. Voilà, bonne fin de journée. Au revoir, Jean Jouzel.
Au revoir, Olivier Prête. Merci beaucoup.